Il existe des lieux où la réalité s'efface pour laisser place au murmure des images. Une lumière tamisée et le silence feutré d'un atelier où les rêves prennent forme. On n'entre pas ici comme dans une simple pièce, mais comme dans un conte qui s'écrit encore. Nous franchissons aujourd'hui le seuil de l'imaginaire pour rencontrer celle qui donne un visage à nos songes et une couleur à nos parts oubliées. Je suis avec Juliette Pantaléo, plus connue sous le nom de Baba Yaga Pepperland. Cette artiste spinalienne au talent magnétique a été choisie pour signer l'affiche de la 25e édition des Imaginales. Bonjour Juliette ou Baba Yaga, comment préfères-tu que je t'appelle aujourd'hui ?
Bonjour Lia, enchantée. Alors je préfère Baba Yaga Pepperland, comme ça Juliette Pantaléo, la jeune femme timide, reste de côté.
Alors comment cohabitez-vous justement toutes les deux dans cet atelier ? Est-ce que Baba Yaga Pepperland est l'ombre qui guide la main de Juliette ou plutôt son double de lumière ?
Alors c'est intéressant parce que je sais pas si je vois forcément ce double entre Juliette et Baba Yaga, mais Baba Yaga c'est celle que j'utilise le plus pour parler des sujets les plus tabous ou ceux qui m'angoissent le plus. Parce que Juliette, elle est timide, elle fait sa petite vie tranquille du quotidien, mais Baba Yaga, dès qu'elle est dans son atelier, là, elle a l'impression qu'elle peut vraiment exister.
Merci infiniment de m'ouvrir les portes de ton univers aujourd'hui. Avant de plonger dans le vif du sujet, sur quel secret, sur quelle image travailles-tu en ce moment ?
Alors, la réponse va être un peu triste parce qu'en ce moment, je n'ai absolument pas d'image en cours. Quand ça va bien, j'ai pas forcément d'intuition, d'expression qui se déroule. Et là, justement, j'en parlais hier et j'arrive pas encore à diffuser une autre image parce que j'en ai tellement créé ces derniers temps pour des commandes principalement. Je me demande si ça n'a pas un peu coupé mon élan personnel.
T'as besoin d'être un peu triste ou torturé pour créer ?
Pas forcément torturée, mais j'ai besoin qu'on me raconte des histoires autour de moi. Il faut que ça m'inspire. Alors parfois c'est des histoires tristes, mais ça peut être des histoires heureuses. Ou alors tomber sur des faits divers qui me font un truc. Là, il va se passer quelque chose. Mais sinon, si la vie est plutôt plate, là il se passera pas grand-chose.
Alter Ego, c'est le thème central de ces Imaginales 2026. Je pourrais tenter de décrire cette affiche sublime que tu as créée, mais je le ferai bien trop maladroitement. Pourrais-tu nous la raconter ?
Bien sûr. Alors, pour la petite histoire du début, la chose qui m'a inspirée le plus, c'est le tableau Paysage du soir avec deux hommes de Caspar David Friedrich. On l'avait étudié à l'époque, je crois quand on est jeune, on étudie ce tableau. Et je suis retombée dessus avant les Imaginales. Et là, je l'ai vu et je me suis dit, il faut que je recrée une scène de ce type-là. En fait, ce tableau-là, de base, c'est à mon sens très romantique, très mignon. On a deux silhouettes, alors on suppose que c'est des hommes, qui regardent un paysage. Je crois qu'il n'y a rien en dessous, il n'y a rien au-dessus. Et j'avais envie de partir là-dessus. Donc là, j'ai créé deux personnages qui semblent cette fois-ci plutôt féminins. Deux personnages qui se ressemblent, dont un qui porte un masque et qui regarde un petit peu vers le haut pour aller jusqu'au château d'Épinal. Et j'ai imaginé comme une sorte de date, en fait, entre ces deux personnes. Est-ce que ces deux personnes s'aiment et cohabitent, ou alors est-ce que c'est la même personne, ça on ne sait pas. Et elles veulent aller donc jusqu'au château, mais elles vont certainement prendre deux chemins différents. Je suis allée très dans le romantique, voilà, elles vont prendre deux chemins différents, elles vont peut-être s'y retrouver à la fin, et elles se retrouveront ensuite au retour. Et j'ai laissé des petites étoiles derrière leur dos, parce que j'aime bien la théorie un peu qui dit que quand on a un petit caillou dans notre poche ou quelque chose auquel on tient, on retrouve toujours un peu notre chemin où on est toujours lumineux. Et donc là, je me suis dit que ça allait être long pour les deux personnages d'aller jusqu'au château. Donc elles ont leur petite lumière qui les accompagne, un peu comme le petit poussé. Elles vont poser leurs petites étoiles jusque-là et elles vont se retrouver à la fin.
En parcourant ton site www.babayagapepperland.com, on a le sentiment que ce thème de l'alter ego, finalement, est habité déjà bien avant l'invitation au Festival des Imaginales.
Oui, exactement. En fait, je travaille sur ce sujet, je crois, depuis mes études aux Beaux-Arts. Donc, j'y suis restée 5 ans. Et ensuite, j'ai continué là-dessus. À l'époque, j'aimais bien déjà l'idée que c'était pas véritablement moi, Juliette, qui allait créer quelque chose. Donc, j'utilisais déjà un alter ego à l'époque qui s'appelait Jim. Et mon mémoire, justement, que j'avais fait, il s'appelait donc Jim, sur fond noir, comme ça. Et il y avait la partie gauche où c'était une petite fille qui parlait. Et à droite, ce fameux Jim qui était super fort, hyper stylé, gros bonhomme et tout ça. Et lui, j'aimais bien qu'il prenne vachement plus de place que l'autre. Donc, j'ai toujours travaillé là-dessus. Et alter ego, j'aime bien aussi par rapport à la photographie, par exemple. J'aime bien quand il y a des choses qui apparaissent qui ne sont pas forcément voulues. Et il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Le troisième œil de Clément Chéroux, où on voit des photographies où il ne supprime pas les orbes ou les spectres, et des fois on voit des visages qui apparaissent. Et je trouve que c'est très alter ego, et ça m'inspire énormément.
Les Imaginales, c'est le grand rendez-vous du livre et de l'imaginaire, comme si finalement il avait été créé pour toi, ce festival. Ce monde du livre, il ne t'est pas inconnu. Hein. Tes illustrations habitent déjà les catalogues de maisons prestigieuses, comme les éditions Albin Michel, Nathan ou Didier Jeunesse.
Oui, exactement. C'est vrai que, pour revenir sur ce que tu disais au début, c'est vrai que le festival, là, quand j'ai su que c'était Alter Ego, je me suis dit, oui, mais tout est parfait, tout est très aligné pour que je me sente bien dans cet univers-là et que je puisse correspondre parfaitement à une commande. Il y a toujours eu un lien avec l'Alter. Par exemple, le premier bouquin que j'ai fait de couverture, c'était pour Gaël Lémon qui s'appelle 17 ans à jamais. Et là, ils m'ont dit, en fait, on te contacte parce que toi, tu travailles souvent sur des choses qui apparaissent, des choses mystérieuses. Et là, on veut une femme qui est là avec une silhouette à l'arrière qui est un petit peu angoissante, mais pas trop. Et ils voulaient quelque chose en lien avec le portrait de Dorian Gray, qui est une de mes références principales. Et du coup, c'est génial, quoi.
Nous sommes ici au creux de la Cité des Images. Est-ce que parfois tu ressens cet enjeu ou une certaine fierté de t'inscrire à ton tour dans cette lignée d'imagier ?
Pour être tout à fait honnête, vu que je ne trouve jamais vraiment ma place, j'ai peut-être encore du mal à me dire que là, je suis au bon endroit. Donc, je ne saurais pas trop te répondre plus honnêtement que ça.
Comment ça se passe quand on est artiste et justement qu'on a cette difficulté à trouver sa place, et on sait combien l'artiste justement a besoin de temps et de se rencontrer soi-même pour pouvoir produire quelque chose qui le reflète parfaitement et qui finalement évoluera tout au long de sa carrière d'ailleurs.
En fait, je pense que j'ai toujours voulu avoir un lien avec les livres et surtout les magazines. Il y a quelques années, on avait créé une entreprise avec Pierre Virion qui s'appelait Verte Colline, qui était un magazine d'art et de ruralité. Et en fait, lui, il écrivait. Et moi, je faisais les couvertures du magazine ou les illustrations à l'intérieur. Et déjà, là, je me suis dit, je sais que je suis au bon endroit. C'était peut-être la première fois où je me suis dit, là, il n'y a aucun doute. Et du coup, quand on a fermé cette entreprise et que moi, j'ai fait ma vie indépendante vraiment à mon compte, là, je me suis dit, bon, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. On va laisser faire les choses, je vais faire mes illustrations déjà pour moi et on verra s'il y a une suite. Et la suite est venue vraiment tout naturellement et à chaque fois avec des gens avec qui ça a matché à fond, avec un feeling de fou. Et je me dis, j'ai eu énormément de chance.
Tu es la première spinalienne à créer la fiche des Imaginales, est-ce que tu le savais ?
Non, je ne le savais pas exactement, peut-être qu'on me l'avait dit, mais j'ai oublié. Oui, je suis super contente, mais c'est incroyable. Surtout que de base, je ne suis pas spinalienne à 100%. Je suis nancéenne, mais installée quand même depuis un moment là à Épinal, donc c'est magnifique pour moi, c'est une fierté de fou.
On plonge un petit peu dans ton travail, même complètement, on y devine souvent l'ombre d'autoportrait, est-ce que je me trompe ?
Alors, je pense que tu ne te trompes pas réellement, mais à la fois je dirais que c'est pas moi, parce que c'est plutôt moi, ma personne d'aujourd'hui, où j'ai souvent envie de ressembler à mes tableaux. Ça paraît peut-être un peu superficiel, mais parfois quand je dessine des femmes qui me semblent assez convaincantes pour être sur un tableau, je me dis « Ah, j'aimerais bien être cette personne-là ». Et des fois, je me transforme moi, après, dans la vraie vie. Je travaille pas sur l'autoportrait en tant que tel, je travaille plus sur la légende du doppelganger, qui est une légende allemande qui dit que si tu croises ton double dans la vie, il pourrait t'arriver malheur. Moi, j'adore les petites légendes un petit peu monstrueuses comme ça. Du coup, je travaille plutôt là-dessus et pas sur la représentation de moi-même, mais je mets en situation des femmes qui me semblent attrayantes pour qu'elles aient la place dans les paysages un peu fantastiques que je crée.
Tes personnages semblent toujours interroger notre capacité à porter un masque ou peut-être plus particulièrement notre incapacité à nous montrer tels que nous sommes au monde, mais peut-être surtout à nous-mêmes.
Exactement. Je ne suis pas dans une grande critique psychologique en règle générale, mais j'ai du mal avec ce monde où on n'est pas très honnête. Et ces gens portent ce masque, mais en fait, ce masque, c'est celui qui va leur permettre de dire les choses. Des fois, ce qu'on n'aime pas, c'est juste être vu et qu'on dise des choses qui sont réelles. Donc moi, je me dis, pour ma part, le plus simple, c'est quand je suis camouflée. De type une coupe de cheveux, un vêtement, quelque chose qui va me rassurer pour pouvoir être tout à fait honnête et briser des tabous ou des sujets dont on a du mal à communiquer. Donc après, ça, c'est peut-être moi, ma manière de faire, mais je pense ne pas être la seule. Donc oui, je parle beaucoup de la dissimulation, de la dualité, de ce côté où il faut se camoufler, et je trouve ça parfois dommage, mais parfois super.
Alors, tu parles de cette notion d'être aussi un étranger face à soi-même.
Oui, exactement. En fait, je pense qu'on ne se connaît jamais vraiment, qu'on laisse passer des informations qui nous rassurent, qui nous permettent de nous dire « Ah, c'est bon, je sais qui je suis », mais au fond, on est toujours dans une quête d'identité. Enfin, je dis « on ». Peut-être que je parle de moi, au fond. Mais en tout cas, je pense que la vie est très intéressante quand on est toujours en quête. Moi, j'aime bien me dire « Demain, je ne sais pas ce qui se passe ». C'est vachement bien. Et c'est hyper attrayant. J'aime bien la vie excitante, quoi.
Est-ce que ton art t'aide à te découvrir, dans les deux sens du terme, te dépecer création après création de cette cuirasse que l'on porte tous finalement, mais qui nous est propre, cette cuirasse peut-être qui t'aide à être toi-même?
Oui, complètement. Bah, je pense que le mot que tu as utilisé, le mot « découvrir », c'est exactement ça. Tu te découvres toi-même, mais tu aussi t'enlèves aussi une partie de toi. C'est comme si tu te lavais. Ou par exemple, moi, quand je dessine, j'ai un peu cette sensation comme quand je découvre une musique incroyable. Il se passe un truc dans le corps. Là, tu te dis, tu as trouvé exactement ce qu'il fallait au bon moment. Et en fait, quand je termine un dessin, bon, j'en suis pas toujours fière. Il faut que je le regarde 1000 fois avant de le trouver cool. Mais une fois que je l'ai fait, c'est comme si j'avais appelé une personne que j'aime profondément, que je lui avais tout dit et que j'ai raccroché. Ça me fait le même effet un petit peu.
Ton œuvre « Gare aux apparences » m'a immédiatement projetée dans l'univers du loup et les 7 chevreaux recueillis par les frères Grimm, tu me diras si je me trompe. Le chaperon fou nous évoque cet univers commun. Et puis, il y a ce nom, Baba Yaga, cette figure mythique du folklore slave. Est-ce que les contes sont l'une de tes racines d'inspiration ?
Tu ne te trompes absolument pas sur les références et j'aime aussi particulièrement la symbolique du mouton et aussi peut-être du mouton noir principalement, qui était un film que je regardais à l'époque, un vieux film. Mais il y a beaucoup de références de contes dans mon travail, ça c'est sûr. C'est exactement ce qui m'inspire le plus, mais c'est les contes qu'on me racontait quand j'étais petite. En fait, ce que j'aime, par exemple par rapport aux sorcières, qui sont beaucoup dans les contes, souvent la sorcière, elle paraît horrible, hyper vicieuse, elle fait des choses atroces, etc. Mais il y a toujours, il me semble, dans ce qu'on m'a lu, mes parents me lisaient ça, il y a toujours une petite phrase où à la fin, tu comprends pourquoi la sorcière, elle était horrible. Ça, j'adore. J'aime bien qu'on puisse avoir une image monstrueuse de quelqu'un, d'un personnage, et qu'ensuite, si on creuse bien le livre, on comprend que finalement, elle avait ses propres faiblesses, elle avait sa propre critique envers elle-même et tout ça. Et j'aime particulièrement ça. Et c'est un peu ce que je veux donner dans mes tableaux. Chaperon fou, par exemple. Quand on le regarde une première fois, on se dit, bon, qu'est-ce qu'elle va nous faire avec son mouton ? C'est vraiment une sorcière entourée de sauge. La sauge, normalement, c'est un ingrédient qui va rajouter un petit truc en plus. On dirait qu'elle va aller cuisiner son mouton. Au fond, ce n'était pas vraiment ce que je voulais dire. C'est plus, tu la regardes, ça se trouve, elle est en train de protéger ce mouton. Elle est en train de l'enlever de la marmite. On ne sait pas. Mais j'aime bien ces deux choses-là. Et après, pour répondre à tes autres questions, Baba Yaga, c'est du coup une sorcière de base. Et je cherchais exactement une figure qui ne me ressemblait pas du tout. J'adore l'idée que quelqu'un puisse venir en expo et se dire, bon, où est Baba Yaga ? On s'attend à quelqu'un de très très grand, peut-être volumineux, j'en sais rien, avec vachement de prestance. Et en fait, finalement, il me voit moi. Et ça m'amuse trop. Et du coup, je voulais un nom comme ça, qui soit un peu amusant et un peu angoissant. Et après, j'ai rajouté le Paperland, parce que j'aime bien le côté un petit peu spicy. J'aime bien aussi principalement le vinyle de William Scheller qui s'appelle Baba Yaga Paperland et qui est un vinyle que j'aime particulièrement et qui m'a inspirée au niveau musical. Du coup, je m'appelle bien comme ça.
Dans les contes, il y a ce mélange paradoxal d'imaginaire avec toujours cette morale de l'histoire qui, elle, est très réaliste, parfois même un peu choquante. Et c'est ça un petit peu aussi ton univers.
C'est exactement ça. Enfin, c'est pas que j'aime choquer, mais j'aime bien qu'on puisse être un poil dérangé. Ça me gêne pas qu'on puisse être un petit peu mal à l'aise. Si on regarde, si on zoome avec nos yeux sur les illustrations, on va se rendre compte d'un détail, de quelque chose qu'on n'avait pas vu au premier abord. Et c'est quelque chose que je trouve intéressant, même dans juste la vie.
Alors Baba Yaga, tu l'as dit tout à l'heure, ça veut dire sorcière. D'ailleurs, derrière nous, il y a un tarot. C'est vrai que l'on perçoit clairement de l'ésotérisme dans tes œuvres. Par exemple, certains de tes personnages portent le troisième œil.
Bien sûr. Alors, l'ésotérisme, je pense que ça n'a pas toujours fait partie de ma vie. Mais il y a eu une époque où j'ai rencontré une fabuleuse femme qui m'a tout appris en termes d'ésotérisme parce qu'elle était magnétiseuse. Enfin, elle l'est toujours. Et elle m'a appris justement à ouvrir ce troisième œil. Alors, après, on le voit comme on le veut. Et elle m'a appris aussi à tirer les cartes. Alors qu'au fond, c'est pas que je suis terre à terre, je suis créative, mais il y a des choses auxquelles je n'ai pas envie de croire. Mais quand elle m'a fait découvrir tout ça, cette fameuse Michelle, ça m'a ouvert une autre vision sur les gens, je pense. Et du coup, ça m'inspire énormément et c'est vrai que dans mes tableaux, j'aime toujours mettre un troisième œil. Ça a toujours la référence aussi au fameux livre dont je te parlais tout à l'heure de Clément Chéroux qui s'appelle Le Troisième Œil. Et en fait, il y a plein de choses autour de nous qui a un lien avec ça et beaucoup d'artistes aussi que j'aime qui travaillent là-dessus. L'ésotérisme fait partie de mon travail, pas forcément de ma vie quotidienne, mais j'aime la divulguer là-dedans.
Ésotérisme et onirisme aussi parce que tes œuvres, elles sont un petit peu impalpable pour certaines, sans vraiment de contexte.
Oui, j'aime bien ne pas forcer les gens à avoir une image ou quelque chose en tête particulièrement. J'aime bien que les femmes ou les animaux que je dessine, j'aime bien qu'on puisse se les approprier. Mais j'aime bien qu'il y ait toujours un aspect réel, comme tu l'as dit, qui nous ramène quand même à la vie réelle. En fait, mes personnages vont avoir l'air d'être très réalistes, mais va y avoir un arbre à côté qui n'existe absolument pas. J'aime bien confondre les deux. C'est peut-être ça, faire du surréalisme, je dirais. C'est ça qui me plaît le plus. C'est pour ça que mes références sont plutôt à l'ancienne, des Magritte, des Dali, David Hockney, etc. Où il y a toujours un symbole où tu te dis, mais ça n'a rien à faire là. J'adore ça.
Il y a beaucoup de représentations d'animaux dans tes œuvres.
Ouais, c'est très rassurant les animaux. Moi, ça me rassure beaucoup. Et vu que je suis particulièrement inspirée par les films de Miyazaki où ils mettent beaucoup des animaux type Totoro ou dans Princesse Mononoké, le loup, je trouve que ça aide vachement à aller plus loin, à s'approprier encore cet animal. Et l'animal est très libre, contrairement à l'humain sur certains points. Donc j'adore dessiner cette liberté et ce côté aussi où l'animal peut paraître angoissant, pareil au premier abord. Mais avec les couleurs que je vais essayer de mettre pour les adoucir, en fait, l'histoire va être beaucoup plus mangeable.
Tu confies souvent que tes œuvres révèlent une certaine noirceur, une part d'ombre de l'âme humaine. Pourtant, ton univers explose de couleurs vibrantes, comme avec le rouge, qui est quand même souvent très présent dans tes œuvres. Est-ce que c'est une sorte d'antidote, la couleur ?
Ah oui, complètement. Parce que souvent, c'est là où je vais travailler le plus longtemps. C'est sur ma palette de couleurs. Il faut que je choisisse exactement celle qui va résonner le plus. Le rouge, pour moi, c'est ce qui est extrêmement vibrant et qui peut être à la fois sensuel et à la fois hyper démoniaque. J'aime bien confondre les deux. Et aussi, en fait, j'aime bien parler de sujets qui sont un peu graves ou un peu effrayants au premier abord. Et en ajoutant une couleur très girly, très romantique, très doux. Et je trouve que c'est un peu comme parler à un enfant quand on dit, je sais pas moi par exemple, le chat il est parti au paradis des chats. Je crois que je fais pareil dans mon travail. Je parle d'un truc grave, mais je le fais tout doucement, au bon rythme normalement pour qu'on ne soit pas complètement bousillé de l'intérieur.
J'ai été très touchée par La Foule ou encore Janine. Est-ce que toi tu as une œuvre chouchou ?
Ah, alors je réfléchis. Je pense qu'au fond, Janine, c'est marrant que tu dises ça, parce que oui, je crois que c'est une de mes préférées. C'est une qui est la plus réelle, qui m'appartient le plus, je dirais. En fait, cette Janine, quand on la met à l'envers, ça fait ninja. C'est une femme très très forte qui a existé, qui n'est plus maintenant. J'avais envie de la représenter jeune, hyper badass dans ses fougères. J'avais envie de représenter cette femme qui a vécu des choses. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vraie vie. Je lui ai mis un décor qui pourrait la camoufler, mais au fond, avec son regard, ça se voit qu'elle veut juste sortir de là et continuer sa vie. Et c'est peut-être celle qui me touche le plus parce que c'est la plus intime, je dirais.
Alors, formé aux Beaux-Arts de Metz, d'abord attiré par la peinture à l'huile et la photographie, tu as finalement trouvé, je te cite, ta place dans la peinture numérique que tu qualifies d'espace libre et instinctif. D'ailleurs, tu dis « l'outil change, mais l'âme reste ».
Bah exactement. Je ne sais pas si c'est pour me rassurer que je dis ça. C'est juste qu'en fait, je pense que quand on a trouvé notre outil ou notre médium, il faut le garder. Il ne faut pas s'en vouloir de ne pas utiliser de la peinture où tu sens l'odeur de la peinture, les pinceaux. Moi, j'en ai dans mon atelier, mais je le fais pour moi. Je ne partage pas ce que je fais à la peinture à l'huile réelle. Mais ce qu'il y a dans le numérique, c'est que en fait, ça me permet de prendre mon temps, d'effacer, de travailler mes couleurs avec un spectre mais énorme. Et en fait, c'est exactement là que je m'y retrouve. Et il faut dire que vu que je suis graphiste aussi, c'est mon job salarié, je me retrouve vachement là-dedans. J'aime bien travailler autour des typos, j'aime bien travailler le vectoriel. Après, tout ce qui est sur ma peinture numérique, j'aime bien l'aspect huile, j'aime bien le fait qu'on puisse confondre les deux entre le réel et la fiction. J'aime bien un peu jouer là-dessus. Pour l'instant, en tout cas, en 2026 encore, c'est mon médium de prédilection. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'en 2030, je me dise bah, finalement, je vais faire de la sculpture. Ça dépend vraiment profondément de ma vie, de ce que j'ai envie de divulguer, comment, le volume ou pas. Là, j'aime bien rester sur ça.
Ton univers ne s'arrête pas au cadre standard. Tu t'illustres, sans mauvais jeu de mots, sur des supports très variés, faisant voyager tes créations sur des t-shirts. D'ailleurs, il y a une grosse série qui va sortir pour les Imaginales, ou même sur des planches de skate. Est-ce que c'est important pour toi d'expérimenter des supports, des choses différentes ?
Écoute, là, en 2026, en tout cas, oui, j'ai vachement cette envie-là. Je ne l'avais pas du tout avant. Mais là, le fait juste de décliner et de travailler aussi avec des gens sur Épinal, par exemple, c'est Vofil, qui est une entreprise familiale que j'adore, qui crée tous mes t-shirts ou par exemple des tote bags ou ce genre de choses. J'aime bien peut-être donner mon travail à des personnes qui vont ensuite en faire autre chose. C'est peut-être plus ça qui m'intéresse plutôt que le côté objet en lui-même. Après, le skate, alors je fais pas de skate, mais j'adore l'univers du skate, hyper libre, hyper cool. Les personnes qui m'entourent, qui font du skate, ils adorent avoir plein de planches différentes. Je me suis dit, mais c'est super cool, on va mettre du Baba Yaga sur des planches, puis on verra comment ils skatent dessus. Et ça, c'était juste un peu un truc un peu surprenant, où je me suis dit, pourquoi pas. Après, normalement, mes illustrations, je les tire sur papier. Pareil avec une autre entreprise à Saint-Nabord, ou sur Dibon. J'aime bien cette matière. Normalement, c'est une matière que tu mets dans les enseignes, dehors. J'aime bien l'idée qu'on puisse mettre des tableaux dehors. Par exemple, quelqu'un en achète un, il le met dans son jardin. Alors peut-être ça sert à rien, mais j'aime bien qu'on puisse jouer un petit peu avec les médiums, qu'on en fasse ce qu'on veut. Ouais, cette année, en tout cas, c'est comme ça.
Baba Yaga, c'est quoi ton grand rêve d'artiste ?
Mon grand rêve d'artiste, si tout était possible, je réfléchis. Si, ça y est, j'en ai un de rêve. Imaginons William Scheller. William Scheller, ou alors un groupe que j'adore aussi, Galatée, très expérimental, hyper cool, ou La Femme. Ouais, j'y pense là. À des artistes, musiciens qui se diraient oh, une pochette de vinyle, là, j'avoue que ça serait l'extase. C'est peut-être avoir un lien avec la musique et qu'on me contacte pour créer quelque chose pour eux, qu'on me dise bah viens, on t'envoie une musique et en fonction de ça, tu fais quelque chose qui résonne en toi. Je pense que là, pour moi, c'est le Graal, quoi.
Bah justement, je cite Baba Yaga Pepperland, c'est ce mélange fascinant entre folklore slave et atmosphère musicale. Ce reportage est réalisé pour Radio Guimauzo, une radio où la musique forcément est reine. Alors, quelle ambiance musicale t'accompagne quand tu crées, si c'est le cas ?
Alors, il y a toujours de la musique qui m'accompagne, aucun doute. Au départ, souvent quand c'est les croquis, j'écoute de l'expérimental à fond, avec souvent des artistes que je trouve, je ne sais pas comment, mais je finis par les trouver. J'écoute. Ensuite, quand je passe par exemple à la couleur, là il me faut des paroles. Souvent c'est plutôt français et après ça peut aller jusqu'à du petit classique. Du Jean-Sébastien Bach, pourquoi pas. Après ça peut être du rap aussi.
T'as un rituel de création ? Par exemple, tu préfères créer le matin, le soir ? Est-ce que tu dois te mettre dans une atmosphère particulière au-delà de la musique ?
Je crois qu'il faut absolument que je sois dans le noir. Donc, j'aime bien quand c'est le soir. J'aime bien quand j'ai fini toute ma journée, mes choses du quotidien, que j'ai l'esprit tout libre et que je suis prête à m'accorder, moi, un temps intime pour moi-même. Il faut que mes petites lumières dans mon atelier soient allumées. Il faut que mon téléphone soit coupé. Et il faut que, souvent, c'est bizarre de dire ça, mais il faut que le dessin soit terminé au moment où je l'ai commencé. Sinon, ça me rend dingue. C'est comme commencer une discussion et pas la terminer. J'aime pas ça. Je dirais que c'est, entre guillemets, un rituel.
Est-ce que parfois tu crées des œuvres, des images finalement qui ne sortiront jamais parce que justement tu n'as pas eu ce temps nécessaire, tu n'as pas réussi à trouver la conclusion, l'outro, la fin de cette discussion avec toi-même?
Et oui, il y en a plein. Ils sont tous cachés ou ils sont dans des carnets. En fait, des fois, je commence à les faire sur des carnets avant de faire sur tablette. Ceux-là, mais ils resteront secrets toute une vie. C'est un petit journal intime.
Dès le 22 mai, tu nous donnes rendez-vous à la Galerie Le Cadre, ici à Épinal, pour découvrir ton exposition baptisée Aurore. Pour les festivaliers des Imaginales, ton travail s'exposera aussi à ciel ouvert avec Alter Ego. D'ailleurs, il me semble que ça a déjà commencé. Une déambulation artistique dans les rues de la ville. Enfin, pour ceux qui nous écoutent depuis la capitale, pourquoi pas, tu exporteras ton univers à la Vanity's Gallery de Paris du 4 juin au 3 juillet pour une exposition au titre très évocateur, Stratégie de la douceur. On peut aussi venir te rencontrer sur les Imaginales le jeudi 28 mai à 17h au Salon Perdu.
Exactement, tu as tout résumé, c'est tout à fait ça. J'ai vraiment hâte de rencontrer des spinaliens ou autres festivaliers ou même des auteurs. Enfin, il va y avoir aussi aux Imaginales l'auteur Gaël Aymon, pour qui du coup j'ai dessiné la dernière couverture, que je n'ai jamais rencontré du coup. Donc normalement, aux Imaginales, je serai à côté de lui aussi sous forme de dédicace, pourquoi pas pour les livres. Il y aura le stand tenu par tous mes acolytes, donc ça va être génial, j'ai hâte de rencontrer tout le monde.
Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite, Baba Yaga?
Toujours de la douceur, ça sera très bien.
Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps dans ton atelier. D'ailleurs, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
Oui, bien sûr. Alors, plutôt sur Instagram que Facebook, babayaga.paperland.
Merci beaucoup, à bientôt.